La Seine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour. Eh bien, c'est André Duny, c'est votre chroniqueur, je ne sais pas s'il est préféré, en tout cas il est fidèle, hein, après 60 chroniques. Je reprends à Radio Couleur Chartreuse, je reprends pour donner un peu d'air, c'est le but de ma chronique, hein, non pas seulement pour le divertissement, pour la musique ou pour l'expression du territoire, encore que je vais avoir pas mal d'invités du territoire, comme j'en ai déjà eu. Mais c'est surtout pour, donner de l'air à nos neurones, hein, essayer de réfléchir. Et donc, chaque fois, j'essaye d'amener une thématique, un thème, un sujet, un problème qui comprend toujours, un état des lieux avec des données fiables, toujours une mise en problème et même en problématique, c'est-à-dire comment on pourrait peut-être renverser ce qui paraît irrenversable, ou penser ce qui paraît impensable, ou imaginer ce qui paraît inimaginable pour nous sortir. C'est ça l'oxygène, hein. C'est de ne pas penser qu'il n'y a pas d'alternative, hein. Vous vous souvenez du mot de Thatcher, Margaret Thatcher, à part le capitalisme, il n'y a pas d'autre alternative. Elle avait peut-être en partie raison à l'époque où le communisme s'est discrédité en devenant un communisme caserne, etc. Fait naître l'espérance pendant 2-3 ans, hein, avec l'autogestion à la base, toutes sortes de choses, une révolution dans l'art et les manières de faire et tout ça. Et puis, rapidement, on a repris sous une forme tsariste un communisme, disons, tsariste, voilà, c'est ça, et voilà. Bon, et ça a asséché ça a asséché l'imaginaire. Très, très grosse responsabilité à ce niveau-là. Bien entendu que les Américains ont tout fait pour écrouler l'Union soviétique, avec la guerre des étoiles, en asséchant, en faisant du blocus, comme ils essayaient avec Cuba, hein, le blocus à Cuba. Tiens, entre parenthèses, je pense que je ferai peut-être une petite émission sur Cuba, si ça vous chante. Parce que Cuba, c'est quand même étonnant, et 11 millions d'habitants, 20 ou 40 fois moins de ressources qu'en France, tout petit pays, une île, et miracle, 3 vaccins, dont un va être bientôt validé, des antiviraux. Alors, comment ils font? Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de grosses ressources bancaires, ils sont dans le blocus américain, comme je viens de le rappeler. Donc, on ne peut guère commercer avec eux, parce qu'un navire qui commerce avec Cuba ne peut plus accoster aux États-Unis. Voilà, c'était ça, le blocus. Et pourtant, il s'y passe des choses quand même qui paraissent plutôt intéressantes, en tout cas une évolution, que j'aimerais vous faire partager. Voilà, et également, je voudrais vous faire partager, dans mes récentes lectures, où la magnifique... je suis fanat d'Arte, vous voyez, mais je vous conseille de l'être aussi. Arte, de mardi dernier, a fait sur les damnés de la Commune une magnifique enquête historique avec des vieux dessins de Daumier, des caricaturistes de l'époque. Et c'était splendide parce qu'on a exactement ce qu'on appelle un vrai documentaire, pas de fake news, pas de sentiments à droite, à gauche. On a un déroulé précis des événements qui explique l'insurrection du peuple de Paris, d'abord des ouvriers, mais aussi tous les employés, des intellectuels, l'institutrice Louise Michel, etc., pour faire une sorte de république communale, ou une sorte de commune, et c'est comme ça qu'ils l'appellent. En fait, c'est un gouvernement, mais sous forme de commune, avec leur idéal d'avoir une France où les habitants, et d'abord les milieux populaires, puissent gérer leur propre commune, et faire une république nationale qui soit une fédération de communes locales. Ça paraît merveilleux encore aujourd'hui, c'est pour ça que les puissants n'ont toujours peur, comme je l'ai écrit dans un mail, certains l'ont reçu, je suppose, puisque vous êtes 400 maintenant sur la liste Savoie de la Seine. Mais vous pouvez vous inscrire aussi, hein. C'est tout simple, hein. Vous mettez un petit SMS au 06 75 80 05 119. Voilà, ce sera une des prochaines émissions, forcément. Il y en aura une aussi sur comment la numérisation précipite dans la marginalisation 27 millions de personnes qui n'ont pas beaucoup d'accès à Internet, pas d'ordinateur pour une bonne partie, qui se débrouillent très mal et qui ont horreur de cet usage ultra numérisé. Je vous raconterai ma propre expérience avec la préfecture de la Savoie et différents organismes et comment je me débrouille. De même qu'aujourd'hui, je vais vous parler... Je voudrais pas planter, puisqu'on m'a dit, mais parfois, en donnant trop de données, plus ou moins scientifiques, en tout cas vérifiables, sur la situation que nous vivons, sociale, écologique, économique, culturelle, vous nous plombez. Ben non, écoutez, on n'a jamais vu une civilisation s'en sortir, que de l'île de Pâques au Japon, ou à l'Empire romain, ou voilà, partout où il y a eu des effondrements. Les sociétés qui s'en sont bien sorties, c'est les sociétés où l'élite, ou le peuple, ou l'un ou l'autre. Parfois le peuple bousculant ses élites et s'en sortant, ou bien des fois les élites travaillant avec le peuple, l'éclairant parce qu'ils ont accès à certaines données. Tout ça a permis de sauver certaines civilisations alors que d'autres se sont effondrées. Et bien justement, ce qui peut sauver nos civilisations, c'est cette éducation populaire que nous tentons à la CEN, Coordination de la Nouvelle Éducation Populaire, qui est d'essayer de mettre à disposition, en se servant bien sûr de tout ce qui existe. Je viens de vous parler d'Arte, mais il y a aussi un tas de journaux comme Le Monde Diplomatique, L'Humanité, Le Canard Enchaîné, L'Écologiste, L'Âge de Fer, Les Petits Canards Locaux de Marseille, ou d'ailleurs, Le Petit Canard que je salue au passage, c'est le petit dernier, c'est Ricochet du Val-de-Drôme, où je faisais des émissions à Radio Cray, c'est-à-dire Radio Saint-Ferréol. C'est bien par tous ces milliards de canaux de médias alternatifs, d'éducation populaire, etc. Et aussi, je me suis remis sur Facebook pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je suis un peu effaré, mais ça, j'en reparlerai, de ces gazouillis incessants où on passe son temps à des couchers de soleil. Ça, c'est sympa, mais aussi à de grosses conneries qui, finalement, pendant qu'on passe 5 heures par jour sur Facebook, eh bien, on ne lit pas ces journaux, ces revues. On ne lit pas ces livres fondamentaux qui sont sortis, comme par exemple, je l'ai dit, je pense, la dernière émission que j'avais faite en décembre, Daniel Tanuro, à lire absolument, L'impossible capitalisme vert. Les éoliennes, pas plus que l'hydrogène, les voitures à hydrogène, les trains à hydrogène, ne nous sauveront de la cata qui s'annonce, côté climat et côté économie, parce que il n'y a pas véritablement d'alternative dans ce qui est présenté dans ces alternatives-là, portés par les uns, par les autres. Il n'y a pas d'alternative dans les éoliennes géantes, pas plus que dans l'hydrogène. L'hydrogène, ça coûte la peau des fesses à fabriquer, donc c'est pas une énergie primaire. Toutes ces énergies ont encore besoin du charbon ou du pétrole ou du gaz pour être produites. Donc, ça fait doucement propre quand vous baladez avec votre voiture électrique à Novalès, comme m'a dit une charmante vendeuse d'un magasin bio. Regarde, je pollue pas. D'accord, tu l'as payé 35 000 euros, tu pollues pas là, mais pour la fabriquer, tu as pollué autant que si tu avais fabriqué un diesel. Tant que tu n'auras pas fait, cher ami, au moins 110 ou 120 000 kilomètres. Sans compter que tu pollues énormément en particules fines, puisque en freinant ta petite voiture électrique, fait beaucoup de particules fines, puisqu'elles accélèrent sec, et donc il faut freiner sec. Et ces particules fines se retrouvent dans nos poumons, et elles pourrissent aussi le lac d'Aigbelette. Voilà, on va essayer de faire donc de nouvelles émissions. On aura l'alternateur bientôt. Je salue ici, ils ont eu leur assemblée générale depuis tant qu'on veut les avoir. J'essaye d'avoir désespérément... passer par les insoumis, c'est les effronter sur ce qui se passe pour la libération de cette moitié d'humanité que sont les femmes. Et il y a encore un énorme boulot à faire. Donc voilà, et on aura aussi, bien sûr, le groupement foncier agricole de Chartreuse et aussi comment ici il se passe des fêtes qui sont financées par les élus locaux, du moins une partie, des fêtes qui font toute leur place au travail et aux cultures du travail en Chartreuse, puisqu'à Chartreuse, il y a une longue tradition industrielle partie de ces éléments naturels, le bois, la fibre de bois, la tourbe, l'acier, le fer, etc. Et outre la bonne bouffe qu'ils ont créée ici, puisque plein d'espèces ont été créées en Chartreuse, voilà, nous aurons aussi ces émissions proprement territoriales, puisque la radio, c'est d'abord l'expression du territoire. Oui, mais dans le local se passe le global. Tôt ou tard, la Chartreuse va être envahie par les fumées de Lyon, puisqu'elles arrivent à Pont-de-Beauvoisin, et celle de Grenoble, puisqu'elles sont en train de monter vers le col de Port. Tôt ou tard, la Chartreuse est impactée par le manque d'eau. Voilà encore une émission que j'aimerais faire sur l'eau. Hein, beaucoup de villages en Chartreuse ont manqué d'eau l'été dernier, l'été d'avant, et cet été encore pire. Voilà, camion-citerne, on en est là. Et donc, ça mérite que l'on tienne ensemble, hein, vous saisissez la chronique, des choses locales, hein, comme un groupement foncier agricole pour empêcher la spéculation sur les terres, l'étalement urbain, le goudron à la place, le goudron et le béton à la place de légumes et des terres. Eh bien, cette visée que nous avons de développer le territoire s'inscrit dans une réflexion globale sur ce qui impacte le territoire de l'extérieur du territoire. C'est vrai qu'on rêve d'avoir des roses et des bonnes choses à manger, mais le problème, c'est que quand on a 3 mois de sécheresse, eh ben les roses se fanent, finissent par crever. Et ça, c'est pas seulement une histoire de Chartreuse, c'est une histoire mondiale d'une société, d'une civilisation thermo-industrielle tellement puissante qu'elles ont mis à mal l'atmosphère où il y a trop de CO2. Hein, on approche les 400 particules par mètre cube. Et donc, 400 molécules hein, de CO2 par mètre cube. Et donc, c'est-à-dire, on empêche la chaleur de quitter la Terre, et donc ça devient une étuve. Voilà, alors, je voudrais commencer la chronique par aujourd'hui, je ne vais pas vous plomber encore avec le Covid, je voudrais juste prendre un petit peu de distance en parlant, bizarrement, encore d'une émission d'Arte, que certains ont peut-être vu, c'est comment le fameux médicament Avandia, il y a en France 4 millions de diabétiques, hein, même plus, c'est-à-dire on est presque à 10%. Aux États-Unis, c'est plus de 10%. C'est un gros, gros problème de civilisation. Et il y a eu 80 000 crises cardiaques liées à la prise de ce médicament antidiabétique pour le diabète 2, Avandia. Or, il se trouve que le laboratoire qui le fabrique savait que ça faisait baisser un petit peu le taux de sucre, pas beaucoup. Ça se vendait très cher. Ça ruine un peu les sécurités sociales quand il y en a, ou en tout cas aux États-Unis. Ça ne permet pas à certaines familles noires et pauvres de se le payer. Donc elles meurent plutôt que les autres. C'est hallucinant ce qui se passe. Et preuve en a été démontrée ce soir-là que les laboratoires, c'est-à-dire les grandes multinationales médicamenteuses, savaient. Ils n'ont informé ni les patients, ni les médecins. Alors, on se demande bien pourquoi. C'est passé entre les mailles du filet de tous les organismes gouvernementaux, hein, la FDA, la FUND, etc., américaine, qui étudient les médicaments avant de les mettre sur le marché pour savoir si tu, si tu pas. Bon, c'est passé comme une lettre à la poste, idem en France, idem partout, en Europe. Et cet Avandia sur le diabète a créé non seulement 80 000 cas cardiaques, mais a abrégé la vie de plein de gens. Alors, ça. Voilà pourquoi peut-être aussi, et les gens se posent la question, mais pourquoi en France il y a une telle défiance à l'égard des scientifiques ? Nous-mêmes, nous réclamons un peu de la vérification scientifique des faits. Mais pourquoi les Français sont-ils le peuple qui se méfie à 40% à peu près de ces scientifiques quand ils parlent du Covid, des épidémies, du diabète, etc. Alors qu'en Allemagne, ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux, aux États-Unis encore moins. Eh bien, c'est tout simplement parce que les Français ont, ce que je viens de vous dire, encore 5% de presse indépendante. Hein, le monde diplomatique est financé par ses lecteurs, le Canard enchaîné est financé par lui-même et ses lecteurs, la décroissance est financée entièrement par ses lecteurs, l'humanité est financée par ses lecteurs, les livres qu'ils ont encore pas mal en France, quand on a décidé enfin de considérer comme un bien essentiel les librairies, après les avoir complètement blackboulés, ces Français-là lisent, ces Français-là sont un peu plus instruits, et du coup, Ils ont cette vieille tradition, la Commune de Paris, la Révolution française, les Trois Glorieux de 1830, c'est un peuple qui a quand même gardé une espèce de insoumission, on va dire, ou d'esprit critique, lui permettant de se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière que 1000 expériences, la dépakine, le médiator, il y a, un jour je vous ferai le détail, il y a eu 17 médicaments qui ont tué ces dernières années, ou qui ont rendu des enfants sans bras ou sans jambes. Et ils avaient tous eu leur autorisation de mise sur le marché. On appelle ça autorisation de mise sur le marché, AMM. Woke up in the morning, feeling round from the shoe. You know my death, baby, I got these old walking blues. I woke up this morning, feeling round for my shoe. Where he at? Well, you know my last name. Look at here, I got these old walking blues. Leaving this morning, I had to go ride the blinds. I've been mistreated and I told my dying. Leaving this morning, I had to go ride the blinds. Some folks tell me, old blues ain't bad. I got the worst old feeling that I ever had. Some folks tell me, old blues ain't bad. You know I got the worst old feeling, Lord have mercy, I ever had. Woke up this morning, feel around my shoe. You know about that babe, that old walking blue. Woke up this morning, I feel around for my shoe. Oh, you know about that baby, I had them old walking blue. Qui fait qu'on est devenu un des principales victimes en France des laboratoires. Et donc, la CSU, par les réseaux sociaux les plus critiques, parce qu'on peut trouver aussi des pépites en or sur Facebook, mais pas beaucoup, eh bien, par les réseaux sociaux, mais surtout par les canards et autres, on a eu une information selon quoi, d'une part, les organismes gouvernementaux de mise sur le marché avaient en leur sein des professeurs qui étaient appointés par les laboratoires. Sachant, entre parenthèses, là aussi, il faudra que je fasse une émission, que les médecins de médecine générale, comme les spécialistes, se voient payer, sous prétexte de formation continue, des séjours en Tunisie ou à l'île Seychelles, hors de prix, payés par les laboratoires, puisque les laboratoires ne sont autorisés désormais non plus à offrir, comme avant, des caisses de whisky, mais sont autorisés à payer des stages de formation aux médecins. En réalité, ils leur payent des vacances grassement payées, grassement de belles vacances, quoi, très chères. Et il y a quelques séminaires au milieu de ces vacances, mais l'essentiel, c'est les bons repas au restaurant, la piscine, et éventuellement les petites nanas. Voilà comment ça se passe. Là, je vous renvoie encore Canard Enchaîné qui a fait un article, qui a fait scandale sur les séminaires en Tunisie. Alors, pourquoi les Français se méfient? Mais parce que ils savent que plein de labos ont eu des informations sur les effets secondaires dramatiques et n'ont rien dit. Pourquoi Servier, des laboratoires Servier, une petite multinationale française, a-t-il caché aux Français que 300 000 femmes ont eu des valvulopathies cardiaques, 2 500 sont mortes, avec le Mediator, qui était censé être un anti, je ne sais plus trop quoi, et qui en réalité avait été, comment dire, un bruit avait circulé, selon quoi il coupait la faim, c'était un coupe-faim. Alors, les femmes se sont précipitées sur ce coupe-faim pour ne pas trop grossir, vu qu'on est abreuvé de l'autre côté par des barres sucrées, par du trop salé, du trop gras, du trop sucré. Et le résultat des courses, une catastrophe sanitaire dans ce pays. Toutes les autorisations étaient données. Et comme par hasard, Servier était l'ami de Chirac, l'ami de Sarkozy, l'ami de tous les grands et les puissants de ce monde de l'État. Donc il risquait rien. Voilà. Alors, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que la même chose est en train de se produire désormais avec le vaccin anti-Covid. Pour ce qui est de diabète, un petit retour historique permet de comprendre, si vous voulez. C'est comment dire, le présent, c'est l'actualisation du passé. Quand vous regardez comment ça se passe au présent, vous ne pouvez pas comprendre seulement en disant « c'est des connards, c'est des salopards, il faut les virer, ils nous baissent la gueule ». Voilà ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il faut essayer de comprendre le présent par le passé. On comprend bien le caractère un petit peu insurgé du peuple français. Par exemple, on ne peut pas comprendre les Gilets jaunes si on ne comprend pas 68, si on ne comprend pas la résistance, si on ne comprend pas le Front populaire de 36, si on ne comprend pas les grandes grèves de 1919-1920, et surtout si on ne comprend pas la Commune de Paris. Elle a puissamment irrigué l'imaginaire des gens. Donc c'est ce passé-là qui fait surface. Voilà pourquoi, sans arrêt, j'invite quand même à lire beaucoup de bouquins d'histoire, mais d'histoire critique, hein, qui permet de se... Voilà. Alors, pourquoi je suis revenu donc sur le diabète ? Parce que toute cette histoire du bien-être et des faux médicaments contre le diabète qui ont enrichi les laboratoires, qu'ils ont cachés, permet aux Français, quand ils sont au courant, de se méfier de ce qu'on leur raconte sur AstraZeneca, par exemple. Alors, il n'y a pas tant de cas que ça, AstraZeneca. Mais enfin, on apprend dernièrement qu'une étude américaine dit que l'efficacité du vaccin serait seulement de 67%. Non, attendez, mais moi, je ne me vaccine pas à 67%, sachant en plus qu'AstraZeneca s'en est mis plein les fouilles avec ce vaccin. Donc, je ne sais pas s'il faut que je vous donne les prix que font payer aux sécurités sociales, aux États et aux particuliers, leur vaccin. Mais ce vaccin-là, il a pas mal d'effets secondaires. Alors, ça y est, on a rassuré tout le monde. C'est toujours le même principe, bénéfice-risque. Mais les risques commencent à s'accumuler et deviennent inquiétants, entre autres, sachant que si je me fais vacciner avec AstraZeneca, comme avec les autres d'ailleurs, je continue de contaminer. Moi, je suis protégé. Tout pour ma pomme. On est bien dans une société, c'est bien un révélateur de société, tout ça, dans une société où certains profitent des crises, s'enrichissent pour les crises, et les autres, les patients, subissent et ne sont pas forcément bien servis. Si je continue de contaminer, il faut que je continue de porter le masque pour ne pas projeter des petites substances, des petits microbes. Il faut que je ne serre pas la main, il faut que je n'embrasse pas, donc la déprime continue. On n'a là pas un système de vraie défense. Donc je vous parlerai peut-être aussi de ce quatrième sujet complètement oublié, qui est peut-être les alternatives pour se soigner autrement, et aussi pour comprendre pourquoi il y a cette maladie au niveau planétaire. Pourquoi certains peuples, comme la Suède, ont 10 fois moins de morts que nous ? Pourquoi en Afrique, qui sont 50 fois plus pauvres que nous, ils ont beaucoup moins de morts en se soignant avec des plantes. Il faut qu'on essaye de développer notre esprit critique et réfléchir aussi que la démocratie, elle n'existe pas dans ce pays. C'est un prince et un petit collectif où il n'y a même pas de compte-rendu public, ni rien, qui décide de tout. De nous confiner, comme j'ai vu là à la Savoie, et interdiction de se balader autour du lac d'Aigbelette quand on a déconfiné. Mais c'était n'importe quoi. En quoi je vais polluer le monde parce que j'ai pas de masque et que je me balade au bord du lac d'Aigbelette. Voilà, je vois des gens qui n'ont rien compris à rien. Ils ont leur masque dans leur bagnole, ils ont leur masque en vélo, ils ont leur masque en se baladant autour du lac d'Aigbelette. Attendez les gars, vous polluez personne, vous allez recevoir aucun virus, l'air circule, il n'y a pas de miasme, comme on disait. Donc voilà, il faut vraiment qu'on réfléchisse à partir du passé sur ce qui se passe. le poids de l'industrie pharmaceutique, le poids des mensonges, le poids de tous ces médecins qui, pour leur laboratoire, reçoivent de l'argent privé, et donc appointés par l'argent privé, ou ayant une formation en Tunisie payée par l'argent privé, vont nous rassurer faussement. Alors, c'est ça qui fait notre défiance. Eh bien, on a bien raison d'être méfiant et d'essayer de vérifier aux meilleures sources les choses. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, on a acheté au prix de 2070 euros par traitement le Remdesivir, mis précipitamment sur le marché pour traiter le Covid. Bon, on en a commandé 500 000 doses en Europe. Mais c'est des profits pharaoniques pour les laboratoires pharmaceutiques. Et pourquoi c'est des profits? Parce que c'est eux qui font les études sur la malfaisance ou la bienfaisance de leurs produits. Et bien sûr, ils doivent suivre un protocole scientifique, mais ils arrangent aussi les résultats. Résultat, ce médicament, il est inefficace. Il nous a coûté la peau du cul à tous. Et total, le laboratoire, personne ne lui a demandé de rembourser. Puisque c'est un laboratoire privé, les actionnaires privés, et qu'ils s'arrangent toujours pour ne pas, comment dire, assumer la responsabilité des effets secondaires en les renvoyant aux États acheteurs. Alors, ce Remdesivir, 500 000 doses, profit pharaonique des laboratoires pharmaceutiques, qui en plus ont reçu de l'argent public pour mettre au point les différents vaccins ou les antiviraux. Alors, ça craint un peu. Par exemple, le Pfizer qui est arrivé premier pour commercialiser un vaccin, 4,2 milliards de dollars de bénéfices pour le troisième trimestre de l'année dernière. Rien qu'en un trimestre, 4 milliards de bénéfices. Ben, c'est bien. Notre grande multinationale, Sanofi, c'est le champion français de la pharmacie. Eh ben, c'est 2,27 milliards d'euros sur la même période, alors qu'il a supprimé 5000 postes de recherche en 6 ans. Enfin, pas de 5000 postes de recherche en 6 ans, parce que là, je vais me faire mettre un coup de bâton. 2500 postes de recherche. Résultat, la France, 6e puissance mondiale, n'a même pas de vaccin. Pharmacia, autre grand labo, 1,5 milliard de dollars sur 9 mois, en hausse de 61%. Merckx, 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre. Enfin, bref, c'est Noël avant l'heure pour l'industrie pharmaceutique. Alors, comment on peut stopper le virus avec un bazar pareil, hein? Les profiteurs du Covid, ils sont en masse. Je viens de parler de Sanofi. Hein? Ben, ça ne l'empêche pas, ayant pas fait de vaccin pour nous, qui nous aurait permis de les vendre à l'Europe ou d'en avoir en France, alors qu'on attend toujours après les masses de vaccins nécessaires pour les soi-disant vaccinodromes. Qu'est-ce qu'il fait? En 12 ans, Sanofi a sabré ses effectifs de recherche, donc on vient de le voir, de 45%, mais il a touché 1,5 milliard de crédits d'impôt recherche en 10 ans. Voilà, avec Hollande et Macron, les États, c'est-à-dire notre argent, a servi pour 1,5 milliard de crédits à Sanofi. À faire quoi? Zéro vaccin. Voilà. Et par contre, les bénéfices de Sanofi, c'est 12 milliards d'euros. L'année dernière, 340% de plus, 3,4 fois de plus que l'année d'avant. Alors qu'il n'a pas fait de vin. Pourquoi? Parce qu'il vend justement ce que je vous disais, des antidiabétiques. Il y a un bond extraordinaire du diabète dans le monde et il se fait, on dit, des papayes en or. Le groupe a raflé des milliards en vendant au plus haut aussi des actions dans Regeneron, une boîte pharmacienne des États-Unis qui prépare un traitement contre le Covid. Alors, ils vendent des départements, un laboratoire qui prépare des Covid contre nous, parce que entre nous, les médicaments, les vaccins, regardez l'Angleterre, elle se rafle tous les vaccins. Et l'Europe en manque. Voilà comment ça marche, l'égoïsme des États au service de leurs multinationales. Idem les Chinois, hein, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Et quant aux Russes, ils nous vendent leur vaccin Sputnik 5. C'est très sympa qu'ils nous le vendent. Ils nous le vendront moins cher. OK. N'empêche que c'est une multinationale russe et que c'est toujours le capitalisme russe. Hein. Faut pas croire que c'est le grand communisme généreux dont on a rêvé sous la Commune de Paris. Hein. Là, on est dans des systèmes qui se disent communistes, mais en fait qui gèrent des multinationales qui sont des ravageuses comme les autres. Hein. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, si on veut faire stop au virus, et si on prend les médecines traditionnelles, c'est de détecter les personnes contagieuses. Ça suffit pas, les masques et même le confinement, parce que là, on parle d'un troisième confinement. Enfin, on parle pas, puisqu'il a commencé pour 20% des Français. Et là, on se rend compte qu'il continue d'impacter gravement la Seine-Saint-Denis. Comme par hasard, Seine-Saint-Denis, c'est là où sont les plus pauvres, les appartements les moins aérés, les plus vieillots, les plus humides. Voilà, c'est les gens les plus pauvres qui trinquent. Là où ça galope, c'est là où il y a les plus pauvres. Donc, ça révèle l'état de délabrement de notre société, du libéralisme avancé. Alors, les personnes contagieuses... Elles doivent être détectées le plus précocement possible et qu'on les isole, qu'il y ait des hôtels, qu'il y ait des résidences. Ça, ce serait efficace. Quand ils ont fait ça à Wuhan, les Chinois, ils ont planqué derrière des murs 4 millions de personnes. Le virus n'est pas propagé. Voilà, il faut que le traçage soit effectué par les personnels des ARS ou de l'assurance maladie par téléphone pour que... Si vous voulez, une personne infectée ne contamine pas la moitié des membres de sa famille et tous les autres dans le boulot. Et pourquoi on ne veut pas fermer les écoles et pourquoi ça continue de contaminer? Parce qu'on veut sauver l'économie capitaliste. En clair, il faut aller au boulot. Il faut aller au boulot pour continuer de faire des profits. Alors je ne dis pas, hein, pour ce qui est de produire des légumes, ce qui est de faire tourner les échanges marchands de produits de première nécessité, mais les vrais, hein, le papier cul, les machins. Mais le reste, fabriquer des jeux vidéo, tout ça, on se rend vite compte que c'est une société du gaspillage et de la consommation et qu'il faut aller à l'essentiel. Eh bien, ceux qu'on envoie au turbin, ils sont dans des métros, ils sont serrés et ils infectent. Donc nous disposons depuis le mois de septembre de tests antigéniques rapides qui permettent l'obtention en 15 minutes. Bien qu'ils soient un peu moins performants que les tests classiques, la rapidité d'obtention du résultat, elle permet d'isoler. Voilà, ces tests auraient pu être utilisés pour les personnels des EHPAD, les aides à domicile, les enseignants, avant qu'ils rejoignent leur famille, et surtout quand c'est des personnes âgées. Le gouvernement vient d'autoriser leur emploi tardivement, mais il n'en fait pas énormément de publicité. Et encore une fois, le problème d'approvisionnement se pose. Bon, bref, tous les risques ont été pris par nous, le public, et par les multinationales. Zéro, puisque qui paye les vaccins? C'est une majorité d'argent public. Hein. Au début, il y a eu une série de préachats mis sur pied avec l'argent des États membres de l'Europe. Ensuite, et surtout, l'Europe a négocié pour le compte des États membres. Et à la fin, ce sont les États qui payent. Et en France, ils se retournent et c'est la Sécurité sociale qui paye, c'est-à-dire nous, directement. Pour les États, c'est indirectement, mais nous, la Sécu, c'est nos cotisations. Donc tout ça, la Commission européenne en voulait enlever le risque commercial aux entreprises qu'elles produisent en masse. Donc conclusion, s'il y a des gros soucis, par exemple avec AstraZeneca, qui est-ce qui va payer? Encore nous, puisqu'on prendra en charge les effets secondaires gravissimes par des indemnisations des familles des patients qui sont décédés ou pour la longue charge de maladies durables. Voilà, tout est sur le dos des gens et rien sur le dos des multinationales. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas cesser de culpabiliser les individus en disant « bande de rigolos, vous portez pas votre masque, vous sortez dans la rue, vous occupez les théâtres comme c'est le cas en ce moment à Chambéry ». Moi, je dis qu'il faudrait bien regarder les copains, pourquoi on nous culpabilise? Pourquoi on met tant l'accent sur l'individu? Plus vous mettez l'accent sur l'individu, plus vous cachez en arrière-plan, hein, par effet de leurre, on appelle ça le leurre, hein, vous mettez en pleine lumière quelque chose qui brille, ça permet de laisser dans l'ombre les responsables réels. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce Covid, c'est pareil, on a tendance à rabattre sur les gens la responsabilité de leur contamination, alors que il n'y a toujours que 5200 lits. Il y en aurait 10 000, on serait un peu moins stressé. Quand on voit qu'il ne reste plus que 100 lits, on se dit qu'il va falloir trier des patients, ceux qui vont mourir et ceux qu'on va essayer de sauver par la réanimation, ce que m'a confirmé des infirmières avec qui je suis en relation. Ça s'est passé, hein, dans la première et la deuxième vague. Mais écoutez les copains, si on avait un petit peu plus de lits, on en a supprimé 100 000, on serait moins stressé. Et on arrêterait de culpabiliser les individus plutôt que de prendre des mesures sociales ou de laisser tout le poids de la charge à la société civile, c'est-à-dire aux individus, et en même temps tout le poids de la culpabilité, et que c'est eux qui diffusent les choses. Mais non, c'est le mode de fonctionnement de la société qui est à mettre en cause d'abord et en premier. Je ne dis pas qu'il y a des rigolos, je ne dis pas qu'il y a des gens qui vous sautent à la figure en vous embrassant, enfin, j'en ai rarement vu, mais il paraît qu'il en existe. Cela, bien sûr, mais vous savez, c'est un peu comme l'enseignant, hein, que j'ai vu dans mon métier. Hein, ils sont nuls aujourd'hui. Ben, d'accord, ils sont nuls, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'ils soient un peu moins nuls? Est-ce que tu n'es pas sûr que la structure que tu as créée de travail ne rend pas nuls tes élèves? Où est le travail de groupe? Où sont les recherches? Où sont les stimulations des plus démunis? Quels encouragements? Comment as-tu fait pour qu'ils comprennent que le participe passé s'accorde, etc.? Pourquoi l'emmerder à faire souligner et apprendre par cœur? Peut-être que si on faisait plus de mise en recherche, de travail de groupe, d'auto-construction des savoirs, de projets, si les enfants faisaient des émissions de radio, si les enfants faisaient des poèmes, si les enfants faisaient du spectacle, si les enfants faisaient des enquêtes, si les enfants faisaient du jardin, comme je viens de le proposer à l'école de Lépin dans mon propre jardin, je l'ai fait pendant 2 ans, les enfants, mais il faut voir comme ils sont excités de comprendre comment ça se fait qu'une petite graine devienne un beau radis, une belle salade, et qu'ensuite on peut la faire déguster aux parents d'élèves. Vous voyez, il faut arrêter de toujours renvoyer à l'individu, il est nul, il n'est pas doué ce connard, mais non, peut-être que la situation qui lui est faite le rend peu doué, et je dirais pas l'autre mot, hein, je m'en ai... Alors, d'où est venu le Covid ? Eh bien, c'est tout simple, le cochon, la chauve-souris. C'est une histoire gravissime qui s'est passée. C'est que nous avons quoi ? Nous ? Non, pas nous ! C'est pas moi, c'est pas vous. Il y a eu, de la part de ceux qui ont de l'argent, des investissements. C'est mes deux premières émissions, ou trois premières émissions, c'était sur la mondialisation. Comme on est allé chercher des salaires en Chine à 70 euros le mois pour 10 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, vous faites 60 heures, et à la fin du mois, vous avez 70 euros. Vous me direz qu'à l'époque, là-bas, le riz était moins cher que chez nous. Ok, ouais, j'avais affiché sur le panneau de mon institut comment la multinationale qui fait de merveilleuses godasses de sport que tous les élèves de collège veulent avoir, je ne vais pas la citer, et elle faisait fabriquer les godasses de pied gauche en Indonésie et de pied droit au Vietnam, pour pas que les gens fichent le camp avec des godasses sous le bras. Parce qu'on ne peut pas contrôler 6-7 000 salariés qui quittent une grande usine. Il payait à l'époque 1 euro, attendez voir, c'était la jeune fille de 14 ans, puisque c'était au départ 12 ans qu'on travaillait, puis il y a une loi qui a interdit le travail à 12 ans. Donc les gamines de 14 ans qui faisaient ces chaussures-là, celles les plus connues, vous savez lesquelles, qui valent 130, 140, 150 euros et qui reviennent à peu près à 10, 12 euros total rendu. Eh bien, elle avait l'équivalent de quoi se payer un repas de boulettes de viande et du riz pour une journée, dans sa journée de travail. Mais pas de quoi se payer un loyer. Indépendante, elle devait habiter chez ses parents, quoi, jusqu'à 20 ans, 21 ans, que ça s'augmente un peu. C'est ça la mondialisation. C'est les avantages comparés. Allez donc aujourd'hui au Vietnam, vous aurez les salaires des Chinois d'il y a 20 ans, puisque maintenant les Chinois, ils gagnent. Les travailleurs chinois, ils ont entre 500 et 600 euros de SMIC, et même plus. Mais si vous allez en Roumanie, vous aurez encore un SMIC à 280 euros. Et donc, nous, Renault, on produit en Roumanie, nous les Français, enfin la multinationale française. Donc, il était une fois une chauve-souris et un cochon qui, contre toute attente, se rencontrèrent dans un pays merveilleux où les habitants, du fait de leur religion, ne mangeaient pas de porc cidé. Pourtant, peu après cette improbable rencontre, les habitants de ce pays furent atteints d'une nouvelle maladie, une redoutable épidémie. Dans un élevage de cochons en Malaisie, son origine est vite trouvée, le virus Nipah circule abondamment chez les chauves-souris. Les éleveurs contractent les fièvres hémorragiques sévères. L'épidémie se propage jusqu'à Singapour. Pour l'enrayer, 1 million de cochons sont abattus. Des quarantaines de personnes et d'animaux sont mises en place. L'épidémie est déclarée sous contrôle dès mars 1999. Bilan humain, 105 morts. Attention, Nipah, ça tue 3 personnes sur 10. Or, Nipah, les copains, est né de quoi ? La réponse est simple. En cette année 1998, la grande île de Bornéo est ravagée par des feux de forêt d'origine humaine. Et pas seulement le réchauffement du climat. On y brûle les arbres pour planter des palmiers à huile. Voyant leur territoire se rétrécir, les chauves-souris partent à la recherche de nouvelles zones d'alimentation et de repos. Elles les trouvent où ? Dans les plantations malaisiennes d'arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers, comme on sait, sous les arbres fruitiers, qu'est-ce qu'on met ? Les cochons. Moi qui suis d'origine ardéchoise, je peux vous dire que les bons ardéchois, ils mettent des figuiers. Et sous les figuiers, ils mettent quoi ? Ils mettent les cochons, les poules. Surtout les poules, parce que les poules avec des figues, ça fait des œufs du tonnerre de Dieu. Du tonnerre. Et c'est parti, les cochons produits par des Malaisiens étant destinés à l'exportation, là on est bien sûr dans la mondialisation, le cochon malaisien, les Malaisiens en mangent pas, ils sont musulmans, donc le cochon il exporte, et il exporte tout ça chez nous. Le virus débarque d'abord, il débarque d'abord dans les abattoirs de Singapour, c'est vrai qu'on n'exporte pas les cochons sur pied, j'allais dire une bêtise, je rectifie, c'est dans les abattoirs. Puisqu'on va exporter des quartiers. Et l'improbable rencontre de la chauve-souris et du cochon n'est donc pas le fait du hasard. Le contexte socio-économique a été déterminant. Voilà, la conversion forestière, l'intensification agronomique, la mondialisation des échanges, des ressources vivantes et des produits d'agriculture intensive, voilà pourquoi il y a des épidémies. Il y en a toujours eu, mais beaucoup moins. Elles se sont propagées, déjà il y avait mondialisation au Moyen-Âge, mais c'était des petites mondialisations avec des bateaux, de petits. On vivait dans des. Voilà. Et bien maintenant, on va avoir beaucoup d'épidémies. Si c'est comme ce fichu virus-là qui risque de refaire surface le Nipah, ben on va être mal. Parce que là, on a un excédent de mortalité par rapport à une grippe saisonnière habituelle en France, en gros, de 20 000 à 30 000 personnes. Toutes, d'ailleurs, avec des défenses très abîmées. La menace pandémique est devant nous. Voilà. Parce que là, on soigne plutôt le symptôme avec le vaccin que l'on s'attaque aux causes. Vous comprenez bien, le vaccin fait du pognon. Là. C'est vrai qu'il protège, il nous protège des symptômes, donc on se vaccine. Et, mais, copains, c'est pas là le fond de la question. Le fond de la question, c'est que le capitalisme, c'est-à-dire notre société ultralibérale, mondialisée, a, comme disait mon copain Karl, il a rompu l'alliance de l'homme et de la nature. Il a rompu, disait-il, la coévolution métabolique de l'homme et de la nature. Jusque-là, c'est-à-dire avant la machine à vapeur, le chemin de fer, tous ces trucs-là, les hommes, les animaux étaient en bonne entente. Il n'y avait pas de mondialisation massive des échanges. Et donc, on ne risquait pas de très grosses maladies, sauf quand il y a un volcan qui cramait son truc, que les récoltes étaient mauvaises, qu'il y avait des épidémies. Hop, la peste se mettait sur les défenses affaiblies. Ça, c'est vrai. Mais en gros, il n'y avait pas cette possibilité multipliée par des milliards d'aujourd'hui de voir des virus débarquer et nous tuer, notamment celui découvert en Sibérie, dans le permafrost, et qui a tué à peu près tous les gens qui l'ont approché. On a mis des barrières tout autour, pareil, quarantaine et compagnie. Il serait quand même, avec le réchauffement climatique créé par l'industrie, il serait peut-être temps de se dire qu'il est temps d'arrêter ce système qui, lui, est la cause profonde du fait que nous soyons de nouveau la proie d'épidémies à répétition, comme ça va être le cas. Donc, il faudrait peut-être que nous pensions qu'on ne peut être en bonne santé sur une planète malade. Et qu'il serait peut-être temps de réfléchir à une quatrième solution. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dépister, imaginer. Ben, ce serait peut-être de... Il y a des alternatives, hein, pour se soigner, et que certains peuples assument. Alors, je vais essayer de vous dire que on a découvert un antibiotique très efficace. Il a été testé, aussi efficace qu'un vrai antibiotique. Il date d'octobre 1038. C'est les chercheurs anglais qui l'ont. Et à force d'isoler les composants chimiques de la pharmacologie moderne, et il est passé à côté des effets combinatoires. C'est une combinaison d'éléments. C'est de l'ail, de l'oignon, de la bile de bœuf, du vin blanc. On laisse reposer 9 jours dans du cuivre. Pris séparément, incapable de détruire les brasseries, mais pris ensemble, cuivre plus ail sont des antiseptiques déjà bien connus. Eh bien, cet antibio est capable de détruire 999 batteries sur 1000. Voilà. Contre l'analyse de séparation, quand l'esprit de séparation, vous voyez qu'il faut une visée globale. Et puis, il y a aussi que, on sait qu'une bonne cure de vitamine C, c'est mon cas, ça fait du bien. Et puis, on sait aussi que le zinc et le sélénium, ça fait du bien. On sait qu'un traitement Artemisia, comme ils font à Madagascar, en Afrique, c'est un très bon préventif antiviral. J'en prends aussi, Artemisia. La vitamine D3, c'est un très intéressant. Toutes les études l'ont montré. Et il y a mieux, mais peut-être qu'il faudrait que je vous en parle. En Argentine, 1200 soignants en contact de maladies Covid-19 ont été suivis pendant 10 semaines dans 4 centres. 788 sur l'ivermectine, 407 n'eurent aucun traitement. En termes de l'essai, 230 sujets furent infectés dans le groupe sans médicaments sur les 407 et 0 sur les 788, l'ivermectine. Faudrait peut-être qu'on y réfléchisse. Premièrement, il faut arrêter de détruire la nature. Deuxièmement, il faut arrêter le système. Et puisqu'il nous reste une minute, merci Julien. Julien, c'est notre nouveau technicien. Il serait peut-être temps de réfléchir à l'exemple spectaculaire du Chiapas avec ce petit traitement sympa et apprendre à travailler sur le fond, comment renforcer nos mécanismes de défense. On a vu peut-être, non, on ne l'a pas vu, que, et je termine là-dessus, que pour le diabète, quand on maigrissait et qu'on changeait de mode de vie, encore faut-il pouvoir le faire, je répète, eh bien, le diabète régressait. Deux, là, diabète de type 2. Alors, pourquoi ne pas essayer de renforcer nos mécanismes de défense par une nature renaturée, par l'arrêt de la production massive de ce qui tue le climat, les arbres, etc., c'est-à-dire cette économie. Et voilà, la piste, la prochaine fois, sera comment on produit local, on mange local, on essaye de faire le plus possible de culture locale, et ça réduira peut-être les risques épidémiques prochains. Je vous remercie. Téléphonez-lui, téléphonez-moi, 06 75 80 05 79. C'était votre ancien nouveau chroniqueur, André Dunis, pour la CEN, Coordination de la Nouvelle Éducation Populaire. Vous voyez, éducation populaire, ça doit servir à quelque chose.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.